Dimanche dernier, mes chers frères et sœurs, nous avons célébré la solennité de l'épiphanie de notre Seigneur. Lui qui était auprès du Père, il s'est révélé, il s'est manifesté à nous comme la lumière du monde et le salut des peuples. La solennité de l'épiphanie, cette fête des théophanies, englobe en effet trois mystères: l'adoration de l'enfant Jésus par les mages, le baptême du Christ et les noces de Cana. Avec le baptême, nous voilà arrivés à la fin de la vie cachée de Jésus à Nazareth, à la fin de ces longues années où il est resté enfoui dans le silence d'une vie ordinaire. Voici l'heure de commencer une étape nouvelle. Voici est l'heure de la vie publique de Jésus, vie qui commence avec son baptême dans les eaux du Jourdain, avec la tentation au désert et enfin avec le miracle de Cana. Un large courant de la recherche exégétique libérale interprète le baptême de Jésus comme une expérience de vocation vécue par Jésus. Lui qui avait mené jusque-là une vie tout à fait ordinaire dans la province de Galilée aurait fait, lors de son baptême, une expérience bouleversante. C'est alors qu'il aurait pris conscience de sa relation particulière avec Dieu et d'avoir reçu une mission religieuse. Nous savons en effet qu'à cette époque-là, il y avait en Israël l'attente d'un Messie, d'un libérateur. Alors Jésus, qui vit un moment fort de bouleversement personnel à l'heure de son baptême, aurait bien exploité cette attente messianique en sa faveur. Voilà alors ce qui se trouverait, d'après ce courant, à l'origine de l'identité, de la conviction, de la conscience messianique que Jésus a de lui-même. Dans une telle perspective, dans le récit évangélique du baptême, les manifestations surnaturelles, comme l'ouverture du ciel, la descente de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe, la voix du Père Céleste, sont toutes interprétées comme des inventions tardives. Tout cela n'aurait existé que dans l'imagination échauffée de Jésus, car la cérémonie de son baptême l'a très vivement impressionné. Tout cela n'aurait été qu'une vision intérieure, des émotions dont l'âme de Jésus débordait. Le Sauveur aurait raconté cette expérience plus tard à ses disciples, et ce seraient ces derniers qui l'auraient peu à peu traduit dans leur propre schéma imaginatif pour en faire finalement un miracle démonstratif. Ne nous attardons pas trop longtemps sur ces conjectures. Les évangiles ne nous racontent pas des conjectures, les évangiles nous donnent des certitudes. L'amour vit des certitudes. D'après les évangiles interprétés fidèlement, les trois phénomènes furent extérieurs et sensibles. Ce dont les évangélistes, les amis et les disciples de Jésus nous racontent, c'est ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu de leurs yeux, ce qu'ils ont contemplé et ce que leurs mains ont touché, à savoir le Verbe de vie, maintenant devenu chair. Leur témoignage est unanime. Leur témoignage est véridique et garde une valeur décisive pour notre foi, car il est témoignage venu d'en haut. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Alors, les évangélistes sont témoins de la gloire du Fils unique que le Père engendre depuis toute éternité. Comme la rosée qui naît de l'aurore, il l'engendre. C'est ce Fils unique qui vient, à la plénitude des temps, se plonger dans la trame de notre histoire, dans la tragédie humaine, dans les ténèbres de notre misère. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. L'apôtre Paul dira: La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Pourquoi les disciples nous portent-ils ce témoignage? Pour que nous ayons la vie éternelle, nous qui mettons notre foi dans le nom du Fils de Dieu. Pour que nous connaissions le seul véritable Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Le Dieu vrai et la vie éternelle. Pour que nous soyons nous aussi en communion avec eux, et en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Par la foi, nous acceptons le témoignage de ces hommes. De même, nous acceptons le témoignage de Dieu qui a évidemment plus de valeur, le témoignage que le Père rend à son Fils. À propos, nous avons eu ces belles lignes de saint Martin de Tours. Il dit « Là, au jour de sa naissance, lorsqu'il est né selon notre humanité, sa mère, Marie, le réchauffe dans son sein et le caresse tendrement sur son sein. Ici, au jour de son baptême, le Père le soutient par un affectueux témoignage. Là, au jour de sa naissance, sa mère, Marie, le présente à l'adoration des mages. Ici, au jour de son baptême, le Père le manifeste aux nations pour qu'elles le vénèrent. » Revenons aux rives du Jourdain. Jésus s'y mêle à la foule anonyme des pécheurs qui attendent pour se faire baptiser. Il veut que son corps très saint soit lavé par l'eau. Pourquoi Jésus demande-t-il être baptisé par Jean? Lui qui est saint, pourquoi a-t-il voulu être baptisé? Nous savons que le baptême implique une reconnaissance des péchés. Il est une confession de ses fautes et la tentative de se dépouiller d'une ancienne vie mal vécue pour en recevoir une nouvelle. Était-ce possible pour Jésus, en qui il n'a jamais eu la moindre trace de péché? Dès sa conception, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Dès sa conception, il est roi éblouissant de sainteté, roi resplendissant de sainteté. Dès sa conception, il est saint, innocent, immaculé, éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Il n'avait pas commis de violence, on ne trouverait pas de tromperie dans sa bouche. Il n'avait pas besoin d'une rupture avec le passé, comme un Paul ou un Augustin. Alors comment peut-il se séparer d'une vie antérieure pour en mener une nouvelle? Comment Jésus a-t-il pu se reconnaître des péchés? Le même Père de l'Église, Saint Maxime de Tours, nous dit « Le Christ est baptisé non pas pour être sanctifié par l'eau, mais c'était en vue de sanctifier les eaux du Jourdain et pour purifier par sa pureté ces flots qu'il touche. » C'était, comme disait saint Grégoire de Nazianz, pour ensevelir tout entier le vieil Adam au fond de l'eau, pour nous, en notre faveur, en précurseur. Dans la deuxième lecture, nous avons eu une expression un peu énigmatique qui peut aussi nous fournir des éclaircissements sur cette question. Parlant de l'esprit, l'eau et le sang, saint Jean écrit, ils sont trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois ne font qu'un. Qu'est-ce que cela veut dire? L'eau signifie la purification, purification du péché. Il s'agit d'une purification inouïe, car il s'agit de la purification des péchés du monde entier. Une telle purification ne peut pas être accomplie par n'importe quelle eau, ni les eaux du Gange, ni les meilleurs produits de lessive ne pourront effectuer cette purification. J'ai remarqué qu'en Suisse, vous avez des produits de lessive hyper efficaces. Mais quand il faut effacer non seulement les taches du corps, mais les souillures de l'âme, ces produits ne servent à rien. On trouve à ce sujet une très belle phrase chez le prophète Jérémie. « Tu auras beau te lessiver à la soude, y rajouter quantité de potasse, devant moi ta faute reste incrustée. » En effet, personne, aucun homme, aucune entreprise humaine ne pouvait prendre sur lui, sur elle, une telle tâche. Car comme disait Charles Journet, le péché du monde entier est plus profond que le monde ne peut le savoir. Ainsi, si l'eau signifie une purification, c'est une purification telle qu'elle coûtera le sang. Il ne s'agit pas de n'importe quel sang, mais de celui de Jésus, le Fils qui nous purifie de tout péché. L'eau ne peut pas accomplir cette purification du péché. Il n'acquiert sa vertu purificatrice que lorsqu'elle est remplacée, changée par le sang de l'agneau, par le sang de la croix, par le sang du Sauveur Jésus. Effectivement, sur la croix, de son côté transversé, vont jaillir le sang et l'eau, signe du baptême qui nous purifie et de l'Eucharistie qui nous nourrit et nous fortifie. C'est pourquoi la mort de notre Seigneur a été un don de l'amour, un baptême dont Jésus avait soif, une Pâque qu'il a désirée dans ce grand désir. Le mystère profond du baptême de notre Seigneur nous révèle d'avance le mystère de sa mort sanglante prochaine, d'où les eaux du Jourdain, les eaux du baptême, tireront leur efficacité. Les eaux du baptême lui auront coûté cher. L'humilité du baptême d'eau, l'humilité du baptême d'eau annonce l'humilité de son prochain baptême de sang. Ce matin, nous avons chanté lors de l'aude. Aujourd'hui, l'agneau s'avance vers la croix. Aujourd'hui, l'ami des hommes se hâte pour nous délivrer. Aujourd'hui, il prend sur lui le péché du monde. C'est dans ce sang, dans le sang de l'agneau, qu'à la suite des martyrs, nous sommes appelés à laver nos robes, à blanchir nos robes. Aujourd'hui, remercions donc Dieu le Père par son Fils dans l'Esprit Saint. Il nous a aimés avec une grande miséricorde. Il nous a pris en pitié. Il nous a lavés de nos péchés par le sang de son Fils. Lorsque nous étions morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ pour que nous soyons en lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains. Demandons-le de nous donner la grâce de redécouvrir la valeur de notre propre baptême, grâce auquel nous sommes élevés à la divine filiation. Qu'il nous donne de raviver le don gratuit de Dieu et la grâce de vivre avec une fidélité héroïque l'onction que nous avons reçue le jour de notre baptême. Qu'il nous donne la grâce de prendre conscience du grand prix auquel nous avons été achetés, de prendre conscience de notre dignité, de nous rappeler à quel chef nous appartenons et de quel corps nous sommes membres. Père très saint, lorsque ton Fils fut baptisé dans le Jourdain, tu as témoigné en sa faveur. Lui seul, qui est de toute éternité en ton sein, a les paroles de la vie éternelle. Donne-nous de revenir à lui pour l'écouter, de croire en son nom et ainsi de devenir tes enfants. Amen.